L'homme est pécheur, l'homme est misérable, l'homme est faible. Voilà l'idée que la religion n'a pas cessé de répéter depuis des siècles. Bonjour mes frères et sœurs. L'homme est condamné à une vie de ténèbres, d'erreurs, de misère, de pénurie, de maladie, de souffrance, de privation. Ben moi je vous dis que nous ne devons pas continuer à propager une idée pareille. Quand on souligne cette idée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on diminue dans chaque créature l'espoir, le désir d'échapper aux limitations. Il ne faut plus accepter ces conceptions qui maintiennent les humains trop bas dans leur faiblesse. Il ne faut plus. L'homme est pécheur, il est méchant. Ok, d'accord. Mais nulle part il est écrit que l'homme doit rester pécheur et doit rester méchant. Nulle part. Alors on incruste l'idée que personne ne peut échapper aux conséquences du péché originel. Mais où est-ce que vous avez lu une chose pareille, messieurs les prédicateurs? Pas dans les évangiles en tout cas. Est-ce que Jésus a parlé du péché originel? Non, pas une seule fois. Non seulement il n'en a jamais parlé, mais en plus il a prononcé des paroles d'une puissance, d'un pouvoir positif inouï, inouï. Écoutez ça, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Question. Comment des êtres définitivement déchus pourraient-ils atteindre cet idéal de perfection divine? Bon, Moïse a eu raison d'affirmer que Dieu est un. Mais ce Dieu était un Dieu implacable, un feu dévorant. En face du Dieu de Moïse, les humains, on n'était que des créatures craintives, tremblantes, des esclaves obligés d'appliquer ses commandements sous peine d'être anéantis. Et puis Jésus est venu. Et puis Jésus est venu. Et Jésus a enseigné que ce Dieu unique est un Père. Un Père dont nous sommes les enfants. Oh, mes frères et sœurs, la distance entre Dieu et nous, cette distance qui nous séparait de lui, a singulièrement diminué à partir du moment où ces paroles magnifiques ont été prononcées. Nous avons des liens de parenté avec lui, des liens familiaux. Tout a changé. Alors, en réalité, où est-il le changement? Dieu a-t-il changé? C'est dans nos consciences, mes frères et sœurs, que ça a changé. Je pose la question, combien de chrétiens ont vraiment compris ce que signifie être fils de Dieu? Combien de chrétiennes ont vraiment compris ce que ça signifie être fille de Dieu? Comment est-ce que vous vous représentez votre Père céleste? Comme un vieillard avec une longue barbe, occupé à vous observer, à noter vos bonnes et vos mauvaises actions? Ou bien est-ce que vous vous imaginez Dieu comme un bonhomme indulgent, et puis un jour vous allez, comme des petits enfants, grimper sur ses genoux pour jouer avec sa barbe? Vous voyez, depuis des siècles, les chrétiens y répètent Notre Père qui es aux cieux, que ton nom. Mais ils n'ont pas approfondi du tout l'idée, toutes les conséquences qui découlent de cette filiation divine. Pas approfondi. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, écoute-moi. Si tu es un enfant de Dieu, comme la Bible dit que tu l'es, c'est que tu es de la même nature que lui. Un enfant ne peut pas être d'une autre nature que son père. Est-ce que vous voulez en savoir davantage? Est-ce que vous voulez que j'aille plus loin? Je continue? Je continue. Bon. L'idée du péché originel, à cause duquel Adam et Ève, nos premiers parents, ont été chassés du paradis. Cette idée, elle vient de l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ qui a inventé ça. Cette punition a été accompagnée de paroles terribles. Je vais vous lire ça dans les Écritures, dans Genèse chapitre 3, 17-19. Puis Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel j'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture,
tous les jours de ta vie. Elle te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et puis à la femme, ce qu'il dit aussi, c'est terrible ce qu'il dit à la femme. Alors, voilà, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi et toutes ces choses.
Est-ce que ça signifie que l'humanité a été définitivement rejetée par Dieu?
Non, absolument non.
Cela correspond à l'image de Dieu sous l'ancienne alliance. Il faut oser le dire. Maintenant, en enseignant que Dieu est un Père, Jésus nous a amenés à une meilleure compréhension de la divinité. Il a fait évoluer notre conception de qui nous sommes, de qui est l'homme, quelle est la prédestination de l'homme. Bon, même si Jésus a jamais parlé clairement du péché originel, il a quand même traité cette question dans la parabole du fils prodigue. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue, hein? Il a montré que le fils s'est éloigné de la maison du père, mais est-ce qu'à partir du moment où il s'est éloigné de la maison du père, il a cessé d'être le fils de son père? Et puis il a démontré qu'il s'est éloigné, oui c'est vrai, mais qu'il pouvait y retourner. Si l'homme comprend sa faute, celle qu'il a commise lui-même, Jésus dit, eh bien, le Père l'accueillera. Non seulement ça, mais le Père va donner un festin, une fête pour le retour de son fils, une fête pour votre retour. Ensuite, il réintégrerait son fils, sa fille, dans sa dignité première. Mon frère, ma sœur, tous ceux qui n'ont pas conscience de leur dignité de fils de Dieu s'expose à toutes sortes d'égarements et toutes sortes de désespoirs. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouveront jamais, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas conscience de leur dignité de fils de Dieu, de leur nature de fils de Dieu, ils ne trouveront jamais ce qu'ils cherchent au plus profond d'eux-mêmes, parce qu'au plus profond d'eux-mêmes, c'est ça que vous cherchez. Ce que vous êtes réellement. Comment un homme, comment une femme peut-elle s'épanouir s'il passe à côté de ce que c'est que sa vraie nature, sa nature divine, à laquelle il doit s'identifier? Comment il peut? Vous voyez, Jésus est venu nous révéler cela. Il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Oh, alors certains me diront, oui, mais ça c'était Jésus, c'est pas nous. Lui, il est vraiment le fils de Dieu, tandis que nous... Alors, stop. Ça, c'est un esprit religieux. Écoutez-moi bien. Quand Jésus a dit qu'il était le fils de Dieu, il n'a pas dit qu'il était d'une essence différente de nous. Il n'a pas dit, moi, je suis différent de vous, je suis supérieur à vous, je suis le fils de Dieu. Non. Au contraire, il a souligné la nature divine de l'humanité. Dieu est notre Père, il est notre Créateur. Et si c'est pas vrai, alors ça signifie quoi tout ce qu'il dit là? S'il est supérieur à nous, pourquoi est-ce qu'il nous dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et n'en fera de plus grandes ou de plus nombreuses » dans certaines versions, vous voyez? Si Jésus a dit que nous pouvons faire les mêmes œuvres que lui, ça veut dire que nous pouvons faire comme lui, le bien qu'il a fait, les gentillesses qu'il a faites, les miracles qu'il a fait. Si nous pouvons faire comme lui, c'est que nous sommes de la même nature que lui. Alors pourquoi négliger cet aspect de son enseignement? Je vais vous le dire. La plupart des chrétiens sont des paresseux. Alors, je vois que vous souriez là. C'est la première raison, c'est la première raison. C'est ce qui fait que les chrétiens n'agissent pas, ou presque pas. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils ne veulent faire aucun effort pour marcher sur les traces de Jésus, notre modèle. Alors ils disent, puisqu'il était le Fils de Dieu, il était parfait, et en fait il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'il ait manifesté un savoir exceptionnel, des vertus, des forces fantastiques, des pouvoirs fantastiques, exceptionnels, tandis que nous, vous savez, voilà, pauvres pécheurs, c'est normal qu'on soit faible, c'est normal qu'on soit égoïste, c'est normal qu'on soit jaloux, c'est normal qu'on soit méchant, et il est normal qu'on reste faible, égoïste, jaloux et méchant. Eh ben non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Nous sommes des fils et des filles de Dieu exactement comme Jésus l'était. Il n'y a qu'une différence, c'est que lui, Jésus, il était conscient de sa nature et de sa prédestination. Il faut que vous soyez conscient. Il est venu vous enseigner afin que vous soyez conscient de votre nature et de votre prédestination. Il est arrivé sur la terre avec des idées claires au sujet de sa nature. Et il a fait sur lui un grand travail intérieur, comme par exemple résister aux tentations, jeûner, prier, parce qu'il était humain, comme vous. Est-ce que vous avez lu les évangiles? Pourquoi est-ce qu'il a dû attendre sa 30e année pour recevoir le Saint-Esprit? Et pourquoi le diable a-t-il essayé de le faire succomber à la tentation? Parce qu'il devait croître en sagesse et en stature comme vous et moi, exactement. C'est ce que la Bible nous dit. Il croissait en stature et en sagesse. Ah bon? Eh oui. Mes frères et sœurs, par ses paroles, par sa vie, Jésus, il a jamais arrêté de souligner sa filiation divine et la nôtre. Jamais. Et je vous le dis, tant que vous n'avez pas conscience de votre filiation divine et de votre prédestination divine, vous ne pourrez pas vous manifester comme des gens libres. Vous serez toujours esclaves de ce qui triomphe de vous. Parce que vous n'avez pas conscience d'être des dieux. Le pire esclavage qu'on puisse infliger à une personne, c'est de le maintenir dans l'ignorance. Le pire esclavage, c'est qu'on le maintienne dans l'inconscience de sa dignité de fils de Dieu. Et mes frères et sœurs, c'est parce que Jésus est venu révéler cette grande vérité aux foules que les religieux le détestaient. Bien sûr, parce que révéler aux gens qu'ils sont des enfants de Dieu, eh bien c'est révéler qu'on est tous égaux. Dire que nous sommes tous égaux, cela revient à enlever à une petite minorité de prétentieux le droit de se prétendre supérieur aux autres, et donc de leur ôter leurs droits, leurs pouvoirs, leurs prérogatives. Les religieux adorent faire croire qu'ils sont supérieurs aux autres. Foutaise ! Jésus a été le premier à transgresser tous les usages anciens. Il a été le premier à transgresser toutes les coutumes ancestrales cruelles. Tiens, on va lire Jean chapitre 10, verset 32-34. Jean 10, 32-34. Les Juifs, alors Jésus d'abord, il dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Et ils lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Psaume 82, 6, « Vous êtes des dieux. » Jésus ne faisait que de répandre une vérité qui était déjà inscrite dans l'Ancien Testament. Mais cette vérité, inscrite dans l'Ancien Testament, avait été soigneusement cachée. Vous vous rappelez la signification du mot apocryphe ? Ça signifie tenu caché. Et bien cet enseignement-là, il était tenu caché, apocryphié, volontairement laissé de côté par ces saintetés en jupette qui prétendaient être supérieures aux autres. C'est d'ailleurs toujours pareil, hein? Qui enseigne cette vérité? Vous êtes des dieux. Qui enseigne ça?
L'Église qui est chargée de transmettre l'enseignement de Jésus ne s'occupe pas de donner ce savoir aux gens, pas du tout. Jésus, lui, il disait ça et il vivait ça. Il le vivait. Il ne fréquentait pas que les dignitaires, que les gens influents, que les gens instruits, que les gens qui ont du pognon. Il fréquentait aussi bien les humbles, les pauvres, les ignorants, les gens de mauvaise vie. Il les accueillait, il leur parlait, il mangeait avec eux. Et ça énervait les religieux. À qui Jésus révéla-t-il qu'il était le Messie ? À une femme, pas à un saint homme religieux, à une femme qui avait 5 maris à la Samaritaine. Il n'a pas révélé ça à un homme influent, à un homme important. Il a donné cet enseignement qui donne les clés de la vie spirituelle à une femme toute simple qui lui posait des questions bien naïves. À une femme qui, au regard des saints religieux, vivait une vie dissolue. À une femme qui appartenait à un peuple que les saintes personnes d'Israël considéraient comme des mauvais. Des Samaritains. Eh bien, c'est à elle qu'il révèle que Dieu ne peut être adoré que au-delà de toute forme matérielle. Vos temples, vos salles de réunion, vos églises plus belles que les maisons des gens. C'est en esprit, en vérité, qu'on adore Dieu, pas dans ces trucs-là. Pas comme ça. Il a révélé ça parce que, en fait, quand on sait que c'est en esprit, en vérité seulement qu'on peut adorer Dieu, ça veut dire que on peut adorer Dieu seulement dans ce qui est le plus sacré, le plus intime de nous-mêmes. Et puis, il lui a révélé « Je suis le Messie ». Comment on peut expliquer cette attitude ? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette attitude de Jésus ? Eh bien, c'est que ces vérités ne concernaient pas qu'une minorité d'initiés religieux. Mais cette vérité, elle concernait chaque être humain, quelle que soit son instruction, quelle que soit sa classe sociale, son compte en banque, son sexe, sa nationalité, tout le monde. Par cette attitude, Jésus y provoquait les autorités politiques et religieuses de son temps, ces orgueilleux. Il les provoquait et il sapait les bases de leur pouvoir. Bande d'orgueilleux, même pour qui vous vous prenez. Jésus dit à tout le monde, tu peux être parfait comme ton Père Céleste est parfait. Bon, ça va te demander du travail, mais tu peux y arriver. C'est possible. À qui pensait-il quand il disait ça? Est-ce que ça veut dire qu'il ne connaissait pas bien la nature humaine? Pourquoi a-t-il donné aux hommes un idéal qui est apparemment inaccessible? Soyez parfaits. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est parce que Jésus, lui, savait que la véritable nature de l'homme, elle est divine. Elle est d'origine divine. Il voyait que vous, en vous-même, vous possédez quelque chose d'éternel, de tout-puissant, votre esprit. Cette étincelle qui a jailli du cœur de votre Père, le Créateur. Toutes choses sont possibles. Parce que vous êtes des dieux, voilà votre nature. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de gémir, relevez la tête. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur. Il n'y a rien au-dessus de lui. Et vous êtes de sa famille. Père, je te prie de bénir mes paroles dans le cœur de chacun de ceux qui entendent, afin qu'ils cessent de s'inquiéter, qu'ils cessent de souffrir dans cette humiliation religieuse, mais qu'il relève sa tête et son cœur, disant « Oh mon Père, mon Dieu, je reviens à la maison, je sais que tu m'accueilles, je sais que tu me reçois, je sais que tu me bénis, je sais que tu me rétablis dans ma position de fils, de fille, de Dieu, et maintenant, eh bien, je me mets au service dans ta maison, et je fais tout ce qui te plaît dans ta maison, je veux te glorifier. » Père, je te demande de bénir mon frère, ma sœur qui est venu sur révélationbible.com pour écouter ça.
Merci Jésus. Merci mon Sauveur. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur vous accompagne. Je sais qu'il le fait, je sais qu'il le fera. Il continuera à le faire. Et vous pouvez toujours revenir à lui. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il n'est pas ce Dieu.